Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice, et cette semaine, comme chaque épisode d'Europa Voice, nous sommes avec Nathanaël Bloch. Et Nathanaël, c'est le numéro 145. C'est pas forcément un anniversaire, mais ça sonne bien quand même, 145 épisodes à parler de l'Europe, comme ça, à l'antenne de Radio SBS.
Bah oui, qui aurait pu imaginer Christophe?
Moi, je suis parti pour 500, 1000 épisodes.
Hein. Non, mais c'est super de pouvoir faire autant de contenu sur les sujets européens.
Absolument. Et c'est un contenu quand même intelligent, parce qu'on aime bien parler de sujets un petit peu en profondeur. Et là, aujourd'hui, bien sûr, on va parler de ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France avec un nouveau Premier ministre. Ça y est, on l'a attendu pendant pas mal de temps et on a un nouveau Premier ministre qui est pas du tout nouveau sur la scène à la fois publique, politique. C'est Michel Barnier. Il faut savoir que Michel Barnier a une carrière très très longue. Il a été le plus jeune député à l'Assemblée nationale élu à l'époque. Il est aussi maintenant le plus vieux Premier ministre à 73 ans, jamais élu pour les instances françaises. Donc en anglais, on dirait il fait du bookending. Il bloque bien comme ça sa carrière. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui aussi connaît les rouages à la fois de l'Europe, à la fois du gouvernement français. Ça a été aussi Monsieur Brexit pour l'Union européenne. Voilà, c'est juste un petit résumé. Je vais pas vous demander si c'est un choix judicieux, mais c'est un choix avisé quand même.
Alors Michel Barnier, c'est à la fois une surprise et pas une surprise, Christophe. Juste pour revenir, effectivement, il a une carrière extrêmement longue. Le premier mandat d'élu de député, il est de 78, c'est-à-dire encore sous Giscard. Il a été 4 fois ministre, notamment sous les gouvernements Chirac et Sarkozy. 2 fois commissaire européen.
Il a été le monsieur des Jeux Olympiques d'Albertville 92.
Hein. Monsieur des Jeux Olympiques d'Albertville 92, vice-président du Parti populaire européen et encore plus récemment, négociateur en chef du Brexit, monsieur Brexit. Donc, Michel Barnier, il a de la bouteille. Mais quand on trace son parcours, ce qui est aussi intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'il a beaucoup plus, en fait, d'exposition à Bruxelles et dans les instances européennes qu'il ne l'a sur la scène nationale. Juste pour donner une anecdote, ou plutôt pour rappeler un fait, Michel Barnier, il a challengé, il voulait challenger Emmanuel Macron aux dernières présidentielles de 2022.
Il était candidat aux primaires à droite.
Il était candidat aux primaires à droite. Il n'a même pas été en finale. Il est arrivé 3e à la fin de ses primaires où le parti Les Républicains a désigné Éric Ciotti. Donc ça veut dire que même un personnage qui a une telle importance à l'échelle européenne, au niveau des partis et de la politique nationale, il est peut-être un peu plus confidentiel.
Oui, et moins exposé, c'est vrai. Tout en sachant que depuis, le parti à droite, hein, les Républicains, a totalement explosé, implosé. On peut trouver les mots qu'on veut. Éric Ciotti ne fait même plus partie de ce parti-là. Donc, c'est un peu le dernier des survivants, le dernier des Mohicans là-dedans.
C'est aussi une des dernières, Christophe, grandes figures chez les Républicains. Beaucoup sont passés chez Emmanuel Macron. D'autres ont franchi le Rubicon, sont passés au Rassemblement national. Certains sont décédés aussi ces dernières années, ces grandes figures des Républicains. Et puis, c'est une grande figure, mais qui est aussi capable, de par ses aspects confidentiels et de par son exposition à l'échelle européenne, de faire cette espèce de rassemblement des centristes jusque à l'extrême droite.
C'est une question un peu empirique pour vous, mais est-ce que la sélection, le choix, c'est pas une sélection, le choix de Michel Barnier, c'est quand même un symbole du en même temps d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui, il a perdu les élections, clairement, son parti a perdu les élections, le revirement était quand même plus à gauche qu'à droite, mais en même temps, on se retrouve avec un Premier ministre qui est plus à droite qu'à gauche. Est-ce que c'est vraiment un symbole du en même temps, Michel Barnier, aujourd'hui, ce choix de Michel Barnier?
Alors, encore une fois, les mots sont très bien choisis, Christophe. Pour moi, c'est complètement un choix du en même temps. Vous l'avez mentionné en début de cet épisode d'Europa Voice, c'est une transition entre le plus jeune ministre, Premier ministre de l'histoire de la Ve République avec le plus vieux ministre de la Ve République.
Gabriel Attal.
Gabriel Attal. C'est un en même temps aussi, parce que, rappelez-vous-en, en 2022, le nom de Catherine Vautrin était mentionné. Il n'a finalement pas été choisi pour être Premier ministre à cause de ses positions sur la manif pour tous. Mais en même temps, c'est le choix d'un député qui avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 81-82. Donc on est vraiment dans le paroxysme du « en même temps » avec Emmanuel Macron, où c'est difficile de suivre, mais où c'est aussi ce signal qui est envoyé « je suis capable de faire des choix qui peuvent être diamétralement opposés ». Et puis le dernier, qui est peut-être le plus important, le plus politique, c'est effectivement le bloc de gauche est celui qui est arrivé en tête, mais c'est un ministre plutôt, j'allais dire, du bloc de droite qui a été nommé Premier ministre. Alors c'est dû en même temps qui est aussi expliqué par l'incapacité de la gauche à nommer un candidat, si tant on doit rappeler que finalement ils étaient convenus du nom de Lucie Casté.
Oui.
Donc le président de la République aurait dû nommer Lucie Casté,
En même temps, elle n'a jamais fait l'unanimité dans la tête d'Emmanuel Macron.
Alors, et en même temps, surtout, Emmanuel Macron a préempté le fait qu'elle n'obtiendrait pas la confiance à l'Assemblée nationale. Donc,
question pour vous, est-ce que c'est vraiment son rôle à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'a pas juste débordé un peu des lignes de voir en avant? Il a raison ou pas raison, c'est pas la question, mais est-ce que lui, son rôle, c'est de nommer, serait pas nommer un Premier ministre qui est représentant de la voix électorale du peuple français? Donc, est-ce que ça aurait pas dû être elle, même si on allait au risque de voir dans le mur. On allait dans le mur au final. Est-ce que lui, en préemptant ça, il n'a pas quand même débordé un petit peu Macron ?
5, Christophe. L'article 5 de la Constitution, le président de la République est garant de la stabilité des institutions. À partir de là, répondre à cette question, à la question que vous posez, elle est difficile parce qu'il y a la lettre de la Constitution, mais il y a la pratique aussi. Donc, tout est justifiable. C'est-à-dire qu'en tant que garant du fonctionnement et de la stabilité des institutions, on peut en être en savoir gré à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre qui est le plus à même de garantir cette stabilité aussi des institutions par un vote de confiance et par une assemblée qui sera capable notamment de délivrer de travailler sur le budget, le projet de loi de finances pour octobre. Mais disant cela, c'est effectivement dans la pratique de la Ve République, le chef d'État aurait dû nommer un Premier ministre issu des rangs majoritaires, même si c'est à l'intérieur d'une coalition qui est celle du Nouveau Front Populaire, issu de ces rangs-là. Donc même là, répondre à cette question, il y a un peu de « en même temps » du point de vue de l'analyse, mais en tout cas, la position de Emmanuel Macron, pour moi, elle peut être justifiée par l'analyse qui est faite de notamment cet article 5 de la Constitution et de cette stabilité qui fait qu'avec un Premier ministre qui sauterait de fait à cause d'un vote de non-confiance après 50 jours de non-gouvernement, mettrait en péril cette même stabilité.
Ouais, alors c'est vrai qu'il y a eu la trêve olympique au niveau du Parlement. On savait que le gouvernement était démissionnaire. Dans la deuxième partie de cette Europe Aveugle, dans quelques instants, on va parler justement des oppositions. C'est pas même pas de l'opposition, c'est des oppositions. Elles sont multiples, elles viennent de tous bords par rapport à Emmanuel Macron et au nouveau gouvernement. À l'heure où on enregistre ce podcast, le gouvernement français n'est pas nommé. La complexité, donc on peut parler de la complexité de nommer un gouvernement. Michel Barnier, à 73 ans, il s'est donné une tâche plus lourde que la majeure partie des tâches qu'il a eues depuis, et il a négocié le Brexit. Donc c'est quand on pense à la complexité de nommer ce gouvernement, elle est là-haut avec le Brexit, avec cette complexité.
C'est une tâche qui est presque mission impossible pour Michel Barnier, parce que à la fois il doit être capable de gouverner, mais aussi de ne pas avoir de blocage à l'Assemblée nationale. Donc il y a quelque chose qui va être très compliqué. Et c'est peut-être aussi pour ça que Michel Barnier est un bon candidat. C'est parce qu'il va falloir peut-être que le Parlement français fasse preuve d'un peu plus de maturité politique et s'évertue à l'art de du compromis, en fait, comme on le voit à l'échelle européenne.
L'art du en même temps.
Le en même temps, mais le en même temps qui marche à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on a plusieurs blocs, le bloc de droite, le bloc des centristes et de l'alliance des libéraux et des démocrates européens, le bloc de gauche du Parti socialiste. Pour chaque projet de loi à niveau européen, les majorités se font et se défont. Il n'y a pas de majorité automatique. Et ça, dans l'histoire politique de la Ve République et dans le bipartisanisme exacerbé, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est peut-être aussi la voie à suivre pour le Parlement français, c'est de prendre un peu exemple sur ce qui se passe au niveau européen.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Deuxième partie d'Europa Voice, maintenant, vous êtes toujours avec nous, Nathanaël Bloch. On parle maintenant de la situation, on parle toujours de la situation en France, mais on va parler du côté des oppositions. Alors avant juste de détailler où sont les oppositions pour le gouvernement, est-ce qu'on peut juste débattre 30 secondes sur le fait que le double quinquennat d'Emmanuel Macron, on pourra dire dans l'histoire, ou pourra-t-on dire dans l'histoire, qui sera marqué avec une page, un tournant dans la façon dont le Parlement réagit? Là, les deux prochaines années, elles sont hyper importantes parce que peut-être on est à un tournant, peut-être c'est une nouvelle vague de modernité, peut-être c'est ce qui va définir la politique pour les prochaines 10, 15, 20 ans, la façon de faire la politique en France, avec le fameux « en même temps » dont on a parlé en première partie, mais avec cette notion de consensus, de compromis qu'il faudra trouver sur telle ou telle loi et pas forcément sur une action bipartisane.
Consensus, compromis, Christophe, qui est encore très loin de la pratique française, puisqu'on l'a vu même sur la nomination, c'est pas un vote, c'est une nomination d'un Premier ministre. Les différents partis ont été incapables de se prononcer sur un nom, et j'irais même encore une étape plus loin, même au sein de l'Alliance de gauche, du Nouveau Front Populaire, où il est censé y avoir des positions concordantes, ils n'ont pas été capables de nommer une personnalité, j'allais dire, reconnue, et ont atterri, finalement, sur le plus petit dénominateur commun, qui est Lucie Castet et qui a eu une notoriété éclair et qui est déjà tombée dans les oubliettes de la politique nationale. Donc c'est pas gagné cet art de la compromis. C'est encore beaucoup trop vu en France comme une compromission et non comme un compromis pour faire avancer le travail législatif.
Mais est-ce qu'on serait pas à un moment charnière de la politique si on était visionnaire, vous et moi, si on devait mettre un petit billet dessus, est-ce qu'on serait pas à un moment charnière de la façon de faire la politique parlementaire en France?
Je trouve qu'on est surtout arrivé à une limite, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la limite de l'hyper-présidentialisation du régime, ce qui est prévu un peu par la constitution de la Ve République. On n'est pas dans un régime parlementaire, on n'est pas dans un régime présidentiel, on est dans un régime semi-présidentiel, et ça a été encore plus personnifié, magnifié par le jupitérianisme d'Emmanuel Macron. On en voit les limites, hein. Clairement, on en voit les limites. Effectivement,
il paye le prix,
il décide, et il décide contre vent et marée, alors que le message clair quand même des dernières élections, qu'elles soient législatives ou européennes, c'était le ras-le-bol de la politique d'Emmanuel Macron, sans forcément dire on veut pencher complètement à gauche ou complètement à droite. Mais donc déjà, on voit les limites de ça. On voit aussi, Christophe, les limites du projet même macronien, macroniste, qui était d'en finir avec le bipartisanisme à la française.
Bon, là, il a bien réussi.
Alors,
l'implosion, elle est totale.
Alors, oui, d'un certain côté, il en a terminé avec le bipartisanisme classique gauche-droite. Mais ce bipartisanisme, il a en fait été remplacé par un autre bipartisanisme.
Extrême-extrême.
Extrême-gauche, extrême-droite. Donc, encore une fois, il y a cette question de la maturité de la vie politique française, de son fonctionnement. Est-ce que ça peut marcher quand on est dans un modèle qui n'est pas bipartisan? Parce que la question qui se pose avec le bipartisanisme actuel, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est qu'évidemment, il n'y a aucune position commune. Ce qui était moins sûr quand on avait un bloc de gauche, un bloc de droite, parce qu'on pouvait se retrouver sur des terrains d'entente. Donc tout ça, en fait, ça pose des questions sur le retour à un modèle soit plus classique de bipartisanisme, avec une gauche de gouvernement et une droite de gouvernement, ou ça pose cette question très mélanchonienne, finalement, d'une 6e République ou d'un changement de régime, parce qu'on est arrivé au bout et à la limite de l'utilisation et de la pratique des institutions de la 5e République.
Ouais, c'est la façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et que l'herbe n'est pas forcément plus verte si on va de l'autre côté. J'ai fait mes deux proverbes là pour le podcast, c'est bon, on a fait le quota. Si on se concentre maintenant sur les oppositions, encore une fois, il y a plusieurs oppositions maintenant dans le paysage politique français. On va partir à droite. Tout simplement, le Rassemblement National veut se positionner. Alors, ils aiment pas le mot faiseur de roi. Ils préfèrent le mot Premier ministre sous contrôle. C'est plutôt le vocabulaire utilisé. Est-ce qu'ils ont vraiment ce rôle clé aujourd'hui, le Rassemblement National, dans l'échiquier politique pour que Michel Barnier reste en place ou ne reste pas en place? Est-ce que la clé de voûte, elle est autour du Rassemblement National?
Si on fait des maths purement, Christophe, on sait déjà que la gauche, dans son ensemble, l'ensemble de l'alliance de gauche, même les sociaux-démocrates, même les socialistes, ne voteront pas la confiance à Michel Barnier. On sait que chez Macron et chez les Républicains, sous certaines conditions, la confiance sera votée. de facto, Christophe, même s'il n'aime pas le terme, les faiseurs de rois, à ce moment-là, c'est le Rassemblement national. C'est de savoir si le Rassemblement national va appuyer sur le bouton vert et donc donner cette confiance à Michel Barnier ou s'ils vont aussi la refuser et on se retrouvera de nouveau dans une situation de blocage. Donc, de facto, si vous voulez, comme ce sont aussi les derniers à s'être positionnés, le Rassemblement national a ce rôle qui est peut-être le pire rôle que pouvait envisager Emmanuel Macron. Parce que lui, dans sa tête, l'idée, c'était plutôt d'avoir un candidat qui était compatible avec un large éventail, j'allais dire, le plus grand dénominateur commun. Et puis là, on se retrouve avec un blocage annoncé déjà de la gauche, le camp macroniste et les républicains. Donc en fait, ça va être très compliqué. Et puis là, sur la question d'un Premier ministre sous contrôle, Barnier a répondu quelque chose qui n'est pas spécialement convaincant. Il a dit « Je ne suis pas sous le contrôle du Rassemblement national, je suis sous le contrôle de tous les Français. » Bon,
Quand on a dit ça, on n'a rien dit.
Voilà. Et dans les faits, si le gouvernement est mis en minorité à cause du Rassemblement national, ça montrera bien, bel et bien que c'est le Rassemblement national qui décide et qui valide le Premier ministre nommé par Emmanuel Macron. Et c'est d'autant plus dommageable que ça se passe 50 jours, plus de 50 jours après la fin du précédent gouvernement.
Et on sait que le Rassemblement national a quand même été très fort dans le jeu politique. Donc est-ce que eux, ils ont, en ayant ce pouvoir, entre guillemets, cette clé, est-ce que eux pourraient le jouer avec un intérêt entre guillemets personnel plus qu'un intérêt français? Je pense que le oui est forcément dans la réponse, mais comment ça peut se passer pour eux? À quel moment pourraient-ils décider, ou le plus opportun, de décider de dynamiter ce gouvernement? Parce qu'il y a des élections présidentielles qui arrivent, il y a un moment ou un autre, ça va rentrer en jeu.
Alors, vous l'avez dit, Christophe, pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, à l'heure où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore écho du nouveau gouvernement, en tout cas des
premiers. On a du mal à imaginer que des membres du Rassemblement national soient dans le gouvernement, même si aujourd'hui on ne sait pas, et peut-être j'aurais tort de dire ça dans les quelques heures qui viennent. Mais la réalité est qu'on a du mal à imaginer ça quand même.
Mais c'est exactement l'élément de négociation, Christophe. C'est comment est-ce que le Rassemblement national sera assez satisfait de la nomination d'un gouvernement Barnier dans deux cas. Le premier cas, c'est que des ministres du Front national intègrent ce gouvernement. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qu'on n'anticipait pas.
Le veulent-ils vraiment, par contre? Ça, c'est une vraie question. Parce que est-ce que le Rassemblement national veut, et je fais l'avocat du diable, veut rentrer dans un gouvernement qui est déjà, même avant l'heure d'être nommé, déjà en train de couler?
Il y a deux hypothèses, Christophe. Il y a l'attente de 2027 et l'attente des présidentielles de 2027, mais aussi toujours avec cet enjeu que, pour l'instant, le stratagème purement procédurier qui est le Front républicain continue de marcher. Donc on sait très bien que dans une élection uninominale à deux tours qu'est l'élection présidentielle, il y a toujours pour le Front National, pour le Rassemblement National, pardon, ce risque de ne pas être élu à cause de ce Front républicain. Donc la question aussi que se posent sûrement les stratèges en ce moment du Rassemblement National, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir des ministres Rassemblement National et in fine, faire un takeover, faire une offre d'achat agressive et viser Matignon.
Une OPA
et viser Matignon, in fine.
Et
c'est une vraie question, parce que ça peut aussi être un marche-pied, une préparation. Ça va certainement griller.
C'était l'objectif de Bardella. L'objectif de Bardella il y a quelques mois.
Ça va certainement griller la personne qui sera Premier ministre. Rappelez-vous de ce livre « L'enfer de Matignon », c'est-à-dire qu'on est quand même rarement président quand on a été à Matignon. Parce
il y en a plus d'un qui ont essayé et c'est pas forcément, le taux de réussite n'est pas énorme.
Exactement, donc on est toujours le fusible en fait. Donc, mais finalement, en griller un pour qu'un autre vienne derrière. Vous voyez, donc il y a ça. Et puis, il y a aussi tout simplement une question calendaire. C'est-à-dire que finalement, est-ce que, parce qu'on se dirige doucement vers 2025, la campagne présidentielle va commencer véritablement fin 2025, début 2026. Est-ce que finalement, après un an de Matignon, on se grille autant qu'après déjà 3 ou 4 ans à Matignon? Pas sûr. Peut-être que le RN se dit aussi que c'est l'occasion de faire ses premières armes au sein d'un gouvernement. Donc il y a vraiment cette question-là. Et je pense que, pour revenir à votre question, c'est quoi la position du RN? En ce moment, c'est à ça qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'il faut faire entrer des ministres avec l'optique d'avoir un Premier ministre du Rassemblement national? Ou est-ce qu'il ne faut pas être dans le gouvernement, mais le soutenir pour mieux le renverser le cas échéant, ou est-ce qu'il ne faut pas être dans le gouvernement et ne pas voter la motion de confiance? Et là, on est reparti nouveau pour un tour d'incertitude.
Ouais, alors barre à gauche maintenant dans Europa Voice, au niveau de l'opposition, donc de l'extrême et de la gauche, le défi, il est où? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas atteint l'objectif d'avoir leur Premier ministre. Est-ce que c'est possible dans un avenir proche? L'avenir nous le dira, bien entendu, mais est-ce que là, vraiment, le défi maintenant, au niveau du nouveau Front Populaire, il n'est pas en interne? Il est sur s'assurer que ce nouveau Front Populaire, avec toutes ces entités au sein de cet accord, est-ce que le défi n'est pas de s'assurer que tout ça reste en place pour être une voix qui compte au moment venu? Est-ce qu'on n'est pas un peu sur la survie dans ce sens-là?
C'est un panier de crabes, Christophe, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Il y a des dissensions
avec,
tout le
avec,
temps.
Avec ses opportunités, mais ses dangers.
Ses dangers, mais c'est surtout, moi je vois très mal en fait comment ils peuvent s'en sortir après les purges, les trahisons, la personnalité de Mélenchon qui...
Qui est toujours là.
Qui est toujours là, mais qui semble incontrôlable.
Une sorte de nébuleuse.
On se demande d'ailleurs si, en fait, lui-même n'est pas content que le Rassemblement National soit faiseur de roi pour venir en embuscade. Non, la vraie question, en fait, pour moi, elle est plus au niveau de la gauche de gouvernement. C'est à partir de quand la gauche de gouvernement va vraiment casser avec cette extrême gauche. Parce que ça aussi, c'est important de le rappeler. Mmh. Il y a beaucoup de critiques à l'égard de la droite, mais pour l'instant, il existe encore deux partis complètement séparés, malgré quelques transferts. Mais bon, ça reste quand même des transferts, je veux dire, le fait que Ciotti soit parti au Rassemblement National, c'est pas ce qui va ébranler la maison droite. Alors que du côté de la gauche, on a presque accepté finalement que la gauche socialiste se fonde complètement dans les revendications identitaires, communautaristes de l'extrême gauche. Et ce, malgré encore une fois, et c'est là où je pense que la gauche a raté son rendez-vous, malgré les bons scores de la gauche dite de gouvernement aux élections européennes. Donc pour moi, la question, elle est vraiment là, c'est est-ce que la gauche de gouvernement social-démocrate est de toute façon allée trop loin, il n'y a pas de marche arrière, ou est-ce qu'il va y avoir un leader assez charismatique pour l'extraire finalement de cette alliance avec l'extrême gauche?
Mais il faut que ce leader soit vraiment, vraiment charismatique, parce que Glucksmann était charismatique et il n'a pas réussi aujourd'hui, à l'heure où on se parle, à lever justement le débat de ce côté-là.
Je pense qu'on est encore dans des calculs très politiciens. Je veux dire, le fait que l'ancien président de la République, François Hollande,
soit député,
fasse partie de cette gauche, c'est-à-dire n'est même pas assez de verve pour finalement. Enfin, donc pour ne pas reprendre les rênes, en tout cas d'un parti.
Il est quand même parti en catimini en tant que président. Il avait moins de 12% d'appréciation, ce qui est encore plus bas que ce que Emmanuel Macron a aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler, ça.
Oui, mais c'est aussi le. Si on prend l'exemple, on en parlait de Monsieur Brexit, si on prend l'exemple anglais, c'est ce qui est en train de se passer avec Starmer. C'est-à-dire, c'est s'éloigner de la gauche Corbyn, anticapitaliste, communautariste, etc., pour refonder une gauche de gouvernement. Et c'est la question qui se pose en France actuellement.
À la Tony Blair.
À la Tony Blair, à la Starmer. Il y a quand même encore un espace politique en France pour une gauche social-démocrate. Alors, est-ce qu'il va falloir aller chercher du côté de Macron et de faire revenir certains moutons dans la bergerie socialiste? Mais je veux dire, c'est quand même assez incroyable que la gauche n'ait pas pu s'entendre sur le nom de Bernard Cazeneuve.
Ouais.
C'est quand même assez parlant que leur candidat sur lequel, et encore une fois, on n'est pas ici pour faire des jugements de personne, mais Lucie Castet, encore une fois, c'est le plus petit dénominateur commun. C'est la seule personne à qui on trouvait rien à dire parce qu'elle n'a aucune notoriété. Ce n'est même pas une politique, c'est une fonctionnaire, une administrative de la ville de Paris.
Alors que Cazeneuve a été Premier ministre. Bon, le Premier ministre avec le plus court mandat de l'histoire, mais il a été Premier ministre.
Il y a sûrement plein d'autres hommes politiques de premier plan. Je veux dire, Barnier n'est pas exempt de toute critique.
Ouais.
Mais pour des gens de droite, on peut dire en tout cas qu'il a un CV qui potentiellement peut faire le job. Et c'est là aussi où on se rend compte de cette incapacité de la gauche à être dans une alliance cohérente. C'est que si on nomme Lucie Castet, c'est qu'on n'a rien compris aux attentes des Français.
Oui, absolument. Affaire à suivre.
Voilà, on va suivre ça et on va suivre surtout la formation du nouveau gouvernement Barnier.
Absolument. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.